Alors, je prends mon stylo et j'écoute. Et j'aimerais un petit peu de retour des groupes, mais il ne faudrait pas tout dire. Parce que vous avez dit beaucoup de choses dans votre groupe et nous n'avons pas le temps de tout entendre. Mais nous aimerions savoir juste un petit peu deux, trois idées intéressantes qui sont sorties de votre groupe. Alors, c'est à Philippe le privilège de commencer, ou quelqu'un de son groupe. Quels sont les besoins de notre entourage? Alors, vas-y.
On va
à deux. Oui. Alors, vous n'avez pas le droit à un double de temps. Mais moi, j'aurais voulu écrire. Alors, est-ce qu'on peut partager? Alors, allez-y. Mais moi, j'écris.
D'accord. Alors, en fait, les besoins de notre entourage, en fait, ils se résument à trois types de besoins. En fait, c'est tout ce qui est besoins physiques, sociaux et psychologiques. C'est pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow. Et en fait, ça va être surtout, nous on a surtout parlé par rapport à la reconnaissance, tout ce qui est lié à la reconnaissance de soi. Donc l'écoute, l'attention, par exemple. Mais aussi des besoins courants, comme les besoins de base. Par exemple, vous avez une petite mamie dans votre immeuble, l'aider à porter ses courses quand elle revient. Enfin, c'est des gestes à la fois simples et quotidiens qui vont faire beaucoup, parce que c'est ce qui va faire la différence, en fait. Donc c'était être sensible aussi à l'appel des autres. Et en fait, prendre le temps de vraiment les écouter, pas entendre ce qu'ils ont à nous dire pour après caser notre truc, mais vraiment les écouter dans une écoute active, en fait, et de prise en considération. Voilà.
Merci. Damien. Alors, à Damien.
Alors, comment on va répondre alors aux besoins de nos proches? Alors, déjà, qui sont nos proches? Quel est le contexte dans lequel on doit agir? Dans le travail, bien sûr, la famille, le voisinage, l'église. Et comment on peut agir alors? Donc, déjà, dans le cadre d'une association collective, dans l'église, ou bien s'engager dans une association humanitaire, par exemple, ou à titre individuel. Alors là, moi, on a un peu discuté, et puis je pense que ce serait intéressant de rappeler un peu les sept fruits de l'esprit, en fait, qu'on doit manifester au quotidien pour... Tu peux lire.
Donc, Galates 5, verset 22. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. »
Donc, je pense que si on a ça comme... Si on développe cette base dans la relation avec nos proches, ça sera déjà un énorme pas fait vers la compréhension des besoins de nos proches.
Merci Damien. Merci. Je te coupe là déjà parce qu'il faut qu'on fasse le tour des cinq groupes.
Après, on a répertorié toutes les associations humanitaires, bénévoles, de carence.
Ah, clairement.
Ouais, alors, c'était demandé, alors.
Oui, oui. Alors,
on l'a fait.
Ça peut être très intéressant si un jour quelqu'un de l'Église a la possibilité d'aller répertorier tous les engagements associatifs des membres de l'Église pour que l'Église puisse prier pour ses missionnaires dans leurs engagements, chacun dans son quartier. Hein. Je pense qu'on a besoin de prier les uns pour les autres, pour ces engagements. Parce que nous ne voulons pas seulement être présents dans ces associations, mais nous voulons être des témoins, et nous voulons être une bénédiction dans ce que nous faisons. Alors, nous avons besoin de nous encourager, et de prier les uns pour les autres, et peut-être aussi d'y aller à deux ou trois. C'est dur d'être chrétien tout seul dans une association, c'est déjà autre chose lorsque... vous pouvez y aller à plusieurs. Alors Marie recrute là pour une association humanitaire, elle fait des repas chaque jour, Et elle recrute parce qu'elle aimerait bien avoir des frères et des sœurs avec elle pour l'aider à servir des repas. Hein? Et on pourrait continuer comme ça. Alors, deuxième groupe. C'est le groupe qui a parlé de l'histoire de l'Église. Quelle leçon tirer, Matthieu?
Déjà, je vais m'excuser s'il y a des erreurs, vous me compléterez, parce que finalement, dans notre groupe, on n'avait pas les personnes les plus anciennes de l'Église. Donc, on a essayé de faire de notre mieux. Donc, on avait diverses sous-questions qui concernaient la fondation de l'Église, les facteurs qui ont favorisé sa croissance et les obstacles sur la route de l'Église. Donc, je vais tenter un petit résumé. Il était intéressant de remarquer qu'à la base, l'Église était composée de familles qui se réunissaient par amitié, par conviction partagée. Et il y avait notamment beaucoup de repas fraternels, les enfants jouaient ensemble. Bref, c'était une ambiance très familiale. Là, on avait un noyau dur qui, sous l'impulsion d'un homme, qui était John Sutton, et qui avait lui reçu un appel missionnaire pour venir vraiment travailler sur Clermont-Ferrand. Donc la petite histoire disait que c'était sa femme qui avait reçu cette vision.
C'est Perkins.
Ah, les Perkins, pour moi, excuse-moi. Qui avait reçu la vision, donc à la base, cette vision missionnaire. Et là, qui ont cherché à développer ce petit groupe, et on est venu s'installer rue Guinemer, après les réunions dans un petit local. Donc à partir de là, l'Église a connu beaucoup de croissance, notamment par tous les gens qui sont arrivés en mutation, notamment énormément de familles américaines qui travaillaient chez Michelin et qui sont venues compléter les rangs pour parfois près de 50% des effectifs. On avait aussi, et je pense qu'on a toujours d'ailleurs, beaucoup d'étudiants qui fréquentaient l'Église. Il faut savoir qu'à cette période, il n'y avait pas d'autonomie financière. Et c'était l'Église était un poste MIB qui dépendait donc d'une fédération plus haute qu'elle, qui s'inscrivait dans un contexte national, et on l'a dit international, avec aussi Neil Labott comme leader à un moment donné. Donc là, c'est peut-être tout cela, la croissance de l'Église dont on a parlé. Et on avait relevé une phrase intéressante de Neil, qui a dit « Je suis celui qui a fait décoller l'avion ». Mais je n'ai pas vocation à l'avoir piloté. Donc j'aimais bien cette petite phrase. Et là, on a remarqué en fait que souvent les membres ont été le moteur de l'Église. L'Église s'est peu à peu adaptée au fonctionnement sous un système collégial. Donc je ne sais pas si tout le monde est au courant, il y a eu des tensions dans l'Église. Il y a eu le départ de Neil. Et là, il a fallu fonctionner sans pasteur pendant 5 années. Donc, il a fallu trouver des prédicateurs. Il a fallu que l'Église continue à fonctionner, en fait, qu'elle ne s'effondre pas. Et on pense, notamment dans les discussions, on a trouvé que l'Église a ce caractère, elle a cette force d'avoir su surmonter ce genre d'épreuve. Et finalement, les membres sont le moteur de l'Église. Donc, on est là en train de parler un peu des obstacles. On se rend compte que, on est des humains. Il y a eu des problèmes de tension, comme on a dit, des relations humaines. Et des fois, il se trouve que la vision des leaders n'a pas été partagée par les membres. Des leaders parfois très évangélistes, qui n'ont pas été soutenus par les membres. Peut-être que l'Église était... Ça, on ne l'a pas dit, j'en parle mon interprétation. Peut-être que l'Église était jeune à ce moment-là. Donc, à voir. Il y avait notamment des problèmes de communication entre dirigeants et membres. Toujours est-il que tout le monde en a souffert, et ça c'était un point très important. C'est une église qui a connu des souffrances. Et en fait, on a aussi relevé que depuis quelques années maintenant, et c'était avec Dimitri je crois, on fonctionne sous une autonomie financière, et donc l'église finalement à ce jour a gagné énormément en maturité. Et est capable de fonctionner par ses propres moyens, a fini de payer ses locaux, paye son pasteur, et donc arrive peut-être maintenant le besoin d'un nouveau défi, de se trouver une nouvelle impulsion, et c'est là où on en est aujourd'hui, je pense. Je sais pas si ça vous convient, si on peut rajouter quelque chose.
Bravo,
merci Mathieu. Alors, je pense que c'était, enfin, ces échos d'épreuves dont on a entendu parler, vous mettez au défi de trouver un projet d'église. Si Samuel arrive avec un projet, mais qui n'est que le sien, il va avoir l'impression d'être obligé de tirer l'église.
Pour...
Et Eric, oui.
Ah, c'est très important, enfin, dans notre débat, ça, d'ailleurs, que ouais. C'est une équipe qui travaille à la tête ouais. de l'église.
Alors, si c'est un conseil, il se trouve que dans certaines églises, le conseil a un beau projet. Mais si ce n'est que le projet du conseil, le conseil va galérer parce que l'église ne suit pas. Il s'agit vraiment de trouver un projet d'église, ensemble, pour que tout le monde puisse s'y reconnaître et s'engager joyeusement dedans. Alors, c'est intéressant d'étudier la nature de la croissance des églises. Et je vous montre juste... il y a quatre types de croissance d'église. Il y a la croissance par transfert. C'est pas bon non plus. Bon, j'ai pas les bons types. Il y a la croissance par transfert. Il y a la croissance, alors on va appeler ça biologique, parce qu'on fait des enfants qui se convertissent, évidemment, si on veut qu'ils restent en église. Merci, Mathieu. Mais c'est des enfants de famille de l'église. Donc, par transfert, la croissance biologique, il y a la croissance par conversion, et il y a la croissance par repêchage. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui sont dans la nature, qui ont été déçus de leur église ou qui ont décroché de l'église. Et il y a un travail important, un travail pastoral, un travail de contact pour les ramener dans l'église. Mais de loin, le type de croissance le plus intéressant, c'est la croissance par conversion. Si une église, et il semble que ça a été le cas ici à un certain moment, si l'église dépend des transferts, des mutations professionnelles ou l'arrivée d'étudiants pour sa croissance, ça veut dire qu'elle n'est maîtresse de rien. Et c'est très important de surveiller cette partie-là et de vérifier que l'Église continue à toucher de nouvelles personnes, parce que c'est ce type de croissance-là qui est le plus sain.
Mais est-ce qu'on pourrait mettre ensemble biologie et conversion? Parce que parfois, il y a des enfants des chrétiens qui se convertissent
oui.
aussi.
Oui. Alors, les darbistes et les mennonites sont très forts, hein, de ce point de vue-là. Où ils étaient à l'époque, hein, je ne sais pas si ça marche encore, mais ils faisaient 8 ou 10 enfants, et ils connaissaient une forte croissance de l'Église. Mais ça fatigue les mamans, c'est ça l'inconvénient. Il vaut mieux aller dans ce sens-là. Alors, troisième groupe. Quelle est l'identité de notre Église, Monique?
Alors, on a dit beaucoup de choses. Je vais peut-être vous donner les sous-questions, comme ça vous les aurez en tête pour comprendre un petit peu ce qu'on a pu dire. Donc, on nous demandait comment nous voyons la photo de l'Église aujourd'hui, quelles étaient les différences avec celles d'il y a 10 ans, s'il y avait des diversités chez nous, comment elles étaient vécues, et quelles étaient, à notre avis, les impressions des personnes quand elles arrivaient dans notre Église. Voilà, alors je vais peut-être commencer par dire un petit peu, parler de la photo d'il y a 10 ans dans l'Église. Donc, il y a 10 ans dans l'Église, Bon, je vais passer les choses qui sont évidentes, parce qu'on a parlé, qu'on avait un bon groupe de musiciens, que ci, que ça, des choses que tout le monde voit. Hein. Donc, il y a 10 ans, pour quelqu'un qui arrivait il y a 10 ans, quand même, sur le plan physique, il y avait beaucoup de jeunes couples et il y avait un très bon groupe d'ados et quelques enfants. Voilà. On a noté, mais j'en reparlerai plus tard, que les enfants étaient en souffrance. Ça, on a discuté là-dessus. Mais que les enfants qui étaient là étaient en souffrance parce qu'on sortait vraiment d'une période où il y avait eu une grande souffrance, où elle était encore là. Hein. Donc l'Église était essoufflée. Et elle avait elle-même un problème d'identité, hein, puisqu'on était sans pasteur, et la grande souffrance était liée à cette situation. Et alors par rapport à aujourd'hui, si on parle d'il y a 10 ans, il y a eu un renouvellement de la distribution des services dans l'Église depuis il y a 10 ans. C'est extrêmement frappant. Aujourd'hui, on a noté que l'Église était une Église apaisée. Il y avait un retour vers une Église apaisée. On a quand même relevé sur les choses évidentes que notre Église restait en manque d'une tranche d'âge qui est les gens âgés. Alors j'ai dit, bon, qu'on vieillissait, n'est-ce pas ? Mais pour l'instant, on ne croit pas encore les fraises et on est quand même en déficit d'une classe d'âge. Hein ? Qu'aujourd'hui, il y a aussi plus de dispersion géographique. Que les enfants qui sont ici sont épanouis. Et je peux vous dire qu'avec il y a 10 ans, il y a une très grande différence. Qu'il y a un trou de génération. On disait qu'il n'y avait pas de gens âgés, mais il n'y a pas de jeunes. Hein, j'entends par jeunes, entre collège et étudiants, là, il y en a quelques-uns dans nos familles, mais ils ne viennent pas. Voilà, nous a donné une bonne idée, mais peut-être qu'il en parlera tout à l'heure pour essayer de la récupérer. On a trouvé que dans sa photo aujourd'hui, l'église était quand même relativement sereine. Et qu'elle a gardé de la période qu'il y a 10 ans une diversité dans ses animations, dans ses prédications. Puisque il y a 10 ans, on s'était mis au boulot chacun pour animer le culte et on avait des prédicateurs différents tous les dimanches. Et on a quand même gardé ça de cette époque. Alors, attendez, je regarde si j'ai oublié des choses importantes par rapport à ça. Par rapport au point ouvert à la diversité, on pense que notre Église est quand même ouverte aux différents courants. Et s'il y a des diversités qui passent toutes seules, je pense que la plus difficile pour nous à vivre, c'est les diversités politiques de chacun. Enfin, je pense. Enfin, on en a parlé, on était relativement d'accord sur le sujet. Mais que grâce aussi à cette diversité positive, c'est que par rapport à il y a 10 ans, on était quand même plus engagés sur le plan social et missionnaire. Bon, il y a des tas, on ne va pas passer dans les détails sur les choses qui ont fait qu'on y était, mais c'est quand même une différence sur la photo aujourd'hui. Voilà. Et par rapport à la vie, ben, peut-être que ceux qui viennent d'arriver seraient plus à même de dire. Donc, en tout cas, pour ce que les uns et les autres ont entendu, c'est que la vision qu'on a de notre Église est assez variée. On peut très bien entendre des gens qui disent « Ouais, l'accueil, super !» et d'autres qui disent « Ah, vous êtes nuls, j'ai failli parvenir. » Voilà. Il faut savoir aussi par rapport aux gens qui reviennent, qu'il y en a beaucoup qui disent on revient parce qu'il y a quelque chose pour les enfants ou parce qu'il y a quelque chose pour les jeunes il y a 10 ans. C'est quelque chose qui fait la décision. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous voulez rajouter.
Merci, Monique. Qu'on a pris. Merci. Alors, 4. Quelles sont les forces et faiblesses de l'Église ?
volontaire, donc c'est bon.
Oui, ça, oui, allez-y.
Vous allez chanter, parce que vous voulez chanter. Vous faites un chanton.
Alors, dans les forces de l'Église, on a marqué l'accueil. Même si, bon, c'est vrai que dans notre question, en fait, ça reprend beaucoup des choses qui ont déjà été dites. Dans les forces aussi, on a marqué le groupe de musiciens, le groupe de jeunes adultes, la diversité culturelle, parce que on vient un peu tous d'horizons différents et c'est intéressant de partager nos cultures. Et on apprécie aussi la diversité des intervenants, aussi bien pour la louange que pour le culte, de voir des personnes différentes à chaque fois, on aime bien.
Tu me laisses les points faibles, quoi. Voilà. Merci, Annelise. Donc, dans les points faibles, il y en a un petit peu plus. On a relevé le peu de vie communautaire. On regroupait l'hospitalité, en fait, en gros.
C'est hors église. Vie communautaire hors
église. Oui, hors église, ouais. En dehors des cultes, après les cultes. La solidarité, on pourrait aider plus ceux qui sont en difficulté. On regrette qu'il n'y ait pas une étude biblique en fait vraiment approfondie
en dehors des cultes en fait.
En dehors des cultes et en dehors des groupes de maison du coup. Mmh. Voilà. Pas de suivi des ados, on n'a pas du tout. Pas assez de culture de la prière d'adoration, comment on explique ça? On laisse peut-être pas assez de temps pour les moments de prière. On a trouvé que c'était beaucoup plus court que les moments de louange. Enfin, de chant, je sais pas comment dire.
Le moment de prière pendant le culte, de prière, pas d'intercession, mais de prière d'adoration, de louange, prend peu ou pas de place. Hein, mais aussi, ce qu'on disait, hein. C'est qu'il faudrait un petit peu développer la liberté de prière. Hein, parce que si on avait. Plus le courage ou la liberté de prier pour des choses très simples hein, et non pas se dire faut que je fasse des belles phrases, etc. Peut-être que ça n'est pas tout ça.
Donc ensuite, on a trouvé qu'il n'y avait pas assez d'actes d'évangélisation et que du coup, il n'y avait même pas assez d'implication des personnes de l'Église pour évangéliser. Voilà.
Ok. Bon.
On avait des
questions. On a beaucoup réfléchi dessus, c'était de quelle manière notre église rayonne-t-elle et quel public est-elle susceptible d'attirer. Donc bon, on a plus facilement répondu au public susceptible d'attirer qu'au rayonnement. On pense que le public attiré c'est plutôt les jeunes, par le nombre de jeunes déjà qu'il y a dans l'église et par le dynamisme.
Et on pense qu'on rayonne pas vraiment en fait. En dehors, non, mais, enfin, dans l'église, oui, mais en dehors, on pense pas du tout avoir d'impact.
C'est aussi que probablement il faudrait rayonner personnellement déjà pour pouvoir rayonner collectivement.
Alors vous avez compris, hein, vous êtes envoyé en mission cette semaine. Oui, bien, merci. Et un dernier groupe 2015 avec.
C'est Simon qui rapporte.
C'est Simon le rapporteur avec Frédéric.
À la première question, comment aimerions-nous que notre Église évolue? Il a été répondu. Être plus tourné vers les jeunes, les nôtres, pour qu'ils se tournent vers le Seigneur, et ceux de l'extérieur. Deuxièmement, plus d'évangélisation personnelle au travail, avec, à l'intérieur de l'Église, entraide et encouragement mutuel. Troisièmement, pour que l'Église attire qu'elle attire plus notre Église, les non-chrétiens que les chrétiens. Parce qu'on a entendu qu'on était accueillant, mais il faudrait aussi qu'elle attire les non-chrétiens. Nous avons mentionné que la tâche est très difficile, car nous avons eu plusieurs témoignages de ceux qui tenaient le stand à la foire, qui ont rencontré des amis, et quand ils ont vu quel était le stand qu'on tenait, ils se sont enfuis en courant. Donc même pas rentrés dans nos locaux encore. Deuxième point, à quoi voudrions-nous que notre Église ressemble en 2015? Alors, d'abord le quartier. Considérant qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient du quartier dans notre Église, nous avons imaginé qu'il serait possible envisageable, souhaitable de déménager dans un quartier en croissance et desservi par les transports en commun pour les étudiants. Qu'il nous faudrait des bâtiments qui soient accueillants de l'extérieur, par exemple type chapelle moderne catholique, avec une façade, un portail accueillant, et ensuite évidemment l'intérieur pareil. Ensuite, à part le bâtiment, que nous soyons capables de présenter à l'extérieur des spectacles de qualité, par exemple dans le cadre de fêtes de la musique ou du festival biblique, mais aussi des services associatifs dans le quartier de l'église. Dernière question. Comment pourrions-nous devenir une église mère? Nous avons considéré trois conditions préalables. Après une légère augmentation des effectifs. Légère augmentation des effectifs. Légère. Et, pas où, une fréquentation plus régulière. Et, pas où, que chacun ait un service et un engagement. Un service et un engagement. Par ailleurs, nous avons noté que ce serait plus chouette s'il y avait davantage de personnes qui ne travaillent pas en journée.
Ça, c'est beau, ça.
Par exemple, des jeunes retraités.
Ça rejoint la nécessité d'avoir des vieux dans la maison.
Bien. Alors, je peux maintenant dire tout ce que je veux parce que Émilie n'est pas là.
Ouais, mais il y a son mari.
Alors, j'ai jusqu'à quelle heure?
Non, non, c'est bon. On va faire jusqu'à
8h30.
Ah, ouais. Non, on va faire jusqu'à moins 10.
Jusqu'à moins 10. 20 minutes. Ok. Alors, merci à tous les groupes. Cette réflexion, c'est juste une petite mise en appétit. Parce que c'est bon de prendre le temps de se parler et de réfléchir sur ce qu'on vit dans l'Église. Ce n'est pas toujours facile, parce que l'un ou l'autre va venir nous heurter et nous surprendre par sa manière de vivre quelque chose. Nous avons beaucoup aimé la louange, et voilà que quelqu'un vient dire « Oh, ça m'a laissé froid. » Et on ne va pas comprendre. Mais c'est intéressant d'essayer d'approfondir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que la louange peut évoluer pour mieux vous inclure? Ou est-ce qu'il y a un problème dans ta relation avec l'équipe ou avec l'Église, etc. Il y a différentes questions à voir. Alors, je voudrais proposer trois pistes que Dieu peut vous ouvrir dans les jours qui viennent. Alors, la première piste, j'ai appelé tendre les oreilles du cœur et écouter. Alors, c'était inspiré par « Ouvre les yeux de mon cœur hein. ». On parle des yeux du cœur. Alors, j'ai imaginé les oreilles du cœur. Tendre les oreilles du cœur et écouter les autres. Alors, s'écouter les uns les autres. Vous avez compris là, cette semaine, que je suis quelqu'un de très curieux. Je pose beaucoup de questions. J'aime connaître les gens. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec Florence, ni avec Benjamin, ni avec Claudio, mais j'ai discuté avec pas mal de monde. J'aime découvrir le cheminement des gens. Comment tu t'es converti? Comment tu es venu à l'église ici, à l'église baptiste? Comment tu vis ton engagement dans le groupe de jeunes? Et c'est... Moi, je trouve ça fascinant de découvrir le cheminement des gens. Et pour vous, pour bâtir votre projet, ça peut être très intéressant que vous preniez le temps de vous écouter.
lorsque j'envoie des équipes d'étudiants dans les églises, je leur dis d'interroger tout le monde sur leur cheminement spirituel, parce que c'est très enrichissant de connaître davantage les autres. Alors, vous allez tendre les oreilles du cœur dans ces semaines qui viennent, j'espère, pour mieux vous connaître, pour mieux vous comprendre, pour mieux comprendre comment vous vivez cette vie d'église, pourquoi vous avez trouvé l'accueil chaleureux ou pourquoi vous l'avez trouvé froid, pourquoi la louange vous enthousiasme ou pourquoi la louange ne vous enthousiasme pas, pour mieux comprendre comment vous allez bâtir ensemble. Mais il ne s'agit pas seulement de vous écouter les uns les autres, mais aussi d'écouter ceux qui vous entourent. Parce que nous avons dit que l'Église n'existe pas pour ses membres. L'Église existe pour le monde. Et j'ai trouvé très intéressant cette idée d'engagement associatif autour de l'Église. Et là, il s'agit d'aller en chrétien pour être à l'écoute des autres. Vous animez la Croix-Rouge. Pourquoi vous êtes engagé dans la Croix-Rouge? Quels sont les besoins que vous voyez autour de vous? Comment est-ce que moi, je peux venir apporter une contribution à la vie locale de la Croix-Rouge? Ou comment est-ce que je peux apporter une contribution dans telle autre association? Et d'y aller comme témoin, comme serviteur, au nom de Jésus, discrètement. Hein, si c'est laïque, il faut que ça soit discret. Mais vous y êtes pour apporter un témoignage de l'amour de Dieu. Écoutez, enfin, vous écoutez, et ces thèmes que j'ai proposés pour les ateliers cet après-midi, ça peut être intéressant de prolonger certains des ateliers dans les semaines qui viennent dans l'Église, de proposer une réflexion sur l'histoire de l'Église ou une réflexion sur les besoins de l'entourage au cours des semaines qui viennent pour mieux cerner le projet que Dieu vous prépare. Et bien sûr, prendre du temps pour écouter Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour vous? Quels sont ses projets pour vous? J'aime beaucoup un texte dans Actes 13. Si vous avez votre Bible, sinon vous écoutez. Actes 13, les versets 1 à 3. J'aime beaucoup l'église d'Antioche. On entend parler d'elle dans Actes 11 et Actes 13. Et je trouve que l'église d'Antioche est très sympathique. Et vous pouvez peut-être tirer des leçons de son expérience. Actes 13, 1. Dans l'église d'Antioche de Syrie, il y a des prophètes et des hommes qui enseignent. Ce sont Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manéen, qui a été élève avec Hérode Antipas, et enfin Saul. C'est très multiculturel. Il y a un Africain, un Nord-Africain, un Palestinien et un Européen, Saul. Un jour, ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Ils sont réunis pour écouter le Seigneur, pour dialoguer avec le Seigneur. Alors, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. » Ils continuent à jeûner et à prier. Ensuite, ils posent les mains sur la tête de Barnabas et de Saul et ils les laissent partir. Prenez le temps d'écouter Dieu. Il voulait passionnément connaître la volonté de Dieu pour avancer. Et ils étaient courageux parce que, en tant qu'Église, ils ont laissé partir deux de leurs meilleurs éléments pour aller fonder de nouvelles églises. On parlait l'autre fois des risques. Les risques de la maternité. Cette église n'hésite pas, parce que c'est Dieu qui lui demande de donner deux de ses piliers pour aller plus loin. Mais ça venait de Dieu et il l'a béni. Alors, ce sera bon dans les semaines et les mois qui viennent de prendre du temps pour écouter Dieu, pour connaître la direction qu'il va vous donner. Deuxième piste. En fait, la première piste, c'est très sympathique. Écouter et s'exprimer. Les gens aiment bien parler. Les gens aiment bien dire ce qu'ils pensent. Et cette phase-là de la recherche du projet, c'est toujours une phase très enthousiasmante. On discute, on a un tas d'idées géniales et c'est merveilleux. La deuxième phase est plus difficile. Parce que là, il s'agit de faire des choix difficiles qui impliquent des renoncements. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a des besoins, on ne peut pas répondre à tous ces besoins. Il y a des idées géniales qui jaillissent et on ne peut pas toutes les mettre en pratique. Il y a des gens qui sont passionnés pour travailler parmi les jeunes, d'autres qui sont passionnés pour faire de l'évangélisation, d'autres qui sont passionnés pour améliorer la louange, etc. Et ils veulent tous partir dans différentes directions, mais l'Église doit choisir des priorités pour son action. Cela me fait penser un petit peu à ce qu'on vit en couple. J'en ai dit un mot l'autre soir. Alors, monsieur et madame ont des goûts différents, ont des besoins différents, ont des idées différentes sur un tas de choses. Et il s'agit dans le couple de se mettre d'accord sur les mêmes priorités et d'avancer ensemble. Et quand les enfants viennent et quand ils grandissent et ils commencent à s'exprimer, ça devient encore plus compliqué de se mettre d'accord sur des projets de famille. Et dans une église où on est nombreux et où il y a des anciens darbistes, des anciens pentecôtistes et des anciens réformés, ça devient encore plus compliqué de se mettre d'accord sur des projets. Mais cela vaut la peine de trouver de bons compromis qui sont susceptibles de mobiliser un maximum de monde. Je ne sais pas si c'est possible de plaire à tout le monde, mais le bon projet d'église va mobiliser un maximum de membres de l'église. Un maximum de membres de l'église vont se reconnaître dans ce projet. Alors, nous avons dit hier soir que quelque part dans les projets de Dieu pour vous, il y a certainement un projet de maternité. C'est peut-être pas tout de suite, mais quelque part, en tant qu'église, vous êtes appelé à donner naissance à d'autres églises. Alors, le groupe qui a parlé de 2015 a parlé de différents préalables, la croissance, la régularité, l'engagement. Vous avez un problème. Actuellement, vous arrivez à peu près aux limites de votre capacité dans les locaux où vous êtes. On dit qu'à partir du moment où une salle est à 80% remplie, la croissance de l'église ralentit. parce qu'on est bien. À 80% de capacité, on a l'impression que la salle est pleine et on est à l'aise. Et si vous voulez croître dans le local actuel, ça ne va pas être facile. Il y a la possibilité du deuxième culte, mais alors c'est à étudier hein, et à réfléchir sérieusement. Si vous voulez croître, vous aurez peut-être besoin d'un local plus grand. Et ça pose d'autres questions à ce moment-là. Mais peut-être déjà, vous pouvez, en concertation avec les autres églises, déjà choisir ou désigner ce que j'appelle un pôle de développement. C'est-à-dire que vous mettez une option sur un endroit pour une future implantation d'église. J'entends parler d'un groupe de maisons nord qui est dynamique. C'est peut-être du côté de Gerza qu'il y a un besoin de nouvelle implantation d'église. Ou peut-être qu'à Cournon, on va beaucoup construire dans les années qui viennent. Et que les jeunes couples de l'église qui cherchent un logement dans les années qui viennent peuvent aller s'installer à Cournon parce qu'ils savent que c'est là où, en 2015, il y aura une nouvelle église. Est-ce que vous savez que le choix d'un lieu de résidence est un choix stratégique pour le royaume de Dieu? Et moi, je vous encourage à choisir le prochain lieu de résidence, parce que nous allons tous déménager un jour. Je vous encourage à choisir votre prochain lieu de résidence en fonction de votre engagement d'église. Et pas de chercher la maison idéale et puis l'église après. Ça marche moins bien comme ça. Et si l'église a une option sur une ville, ça peut être l'occasion pour les jeunes qui cherchent un logement ou qui fondent un foyer ou qui ont besoin d'un pavillon pour élever une famille, d'aller déjà se fixer dans cet endroit en attendant l'implantation de la nouvelle église. Et puis, il s'agit de commencer par écouter, ensuite de faire ensemble ces choix difficiles, et enfin de se mobiliser ensemble autour de ce projet de l'église. Moi, je crois qu'il y a des capacités encore disponible chez les chrétiens clermontois et chez les chrétiens en France en général. Nous aurions des possibilités d'être plus généreux dans notre libéralité. Nous aurions la possibilité de dégager davantage de notre temps pour le service du Seigneur. Et je crois que lorsqu'il y a un bon projet, les chrétiens sont prêts à se lever et à s'engager dans ce projet. Je regrette la remise en question d'un certain nombre d'acquis sociaux. La retraite à 60 ans, c'était génial pour l'Église. Les 35 heures par semaine de travail, c'était génial pour l'Église, parce que ça permettait aux chrétiens de dégager un après-midi de service pour l'Église. Ou de dégager un certain nombre de journées de travail pour l'Église. Mais un bon projet va mobiliser les membres de l'Église et va leur donner moins envie d'être mutés à 200 km de là, ou moins envie de quitter pour aller vers la mer ou le soleil. Quand on est engagé dans un bon projet, on s'engage avec joie. Pour terminer, un mot, le rappel de la promesse de Jésus. Jésus dit, après la confession de Pierre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, sur cette pierre, et on n'est pas trop sûr de ce qu'il voulait dire par la pierre, mais on peut considérer par exemple que c'est sur cette confession, je construirai mon Église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Jésus exprime là en quelques mots son projet. Je construirai mon Église. Jésus intercède aujourd'hui. Jésus agit au milieu de nous par son esprit. Le grand projet cher au cœur de Jésus, c'est la construction de son Église. Et il nous appelle, nous, ses disciples, à nous engager dans ce projet. Et ma prière, c'est que le conseil de l'Église de Clermont, autour de Samuel et Eric et toute l'équipe, vous puissiez discerner un bon projet pour l'Église de Clermont. Et que vous puissiez vivre des années de croissance et de développement, de multiplication dans les années qui viennent. Prions ensemble. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu fais autour de nous. Dans notre monde. Nous te bénissons pour la croissance de ton Église en Corée du Sud, en Chine, en Afrique, au Brésil. Nous te bénissons pour la croissance de ton Église ici en France depuis un demi-siècle. Et Père, nous te demandons de poursuivre ton œuvre au milieu de nous, de nous renouveler, de nous fortifier, de nous dynamiser pour que la construction de ton Église ici en France puisse encore progresser. Père, nous te demandons de guider le conseil de l'Église et toute l'Église ensemble dans sa réflexion pour discerner clairement ta volonté dans ces mois qui viennent. Et que ce projet puisse être pour ta gloire dans cette région. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.